Oye, oye, braves gens, vous avez probablement reconnu ce générique. Et oui, c'est l'instant bien-être. Claire Elisabeth Coursier est de retour avec une thématique aujourd'hui, la procrastination. Qu'est-ce qu'on fait, Claire Elisabeth? Est-ce qu'on remet l'émission à demain, du coup?
Je suggère justement d'éviter la procrastination et c'est ce qu'on va travailler justement aujourd'hui. Donc non, on va bien la maintenir.
D'accord, on va maîtriser tout ça. 9h30 sur Fréquence Mistral. Merci de nous rejoindre sur le 107.3. Vous pouvez également nous écouter sur internet www.fréquencemistral.com, onglet Gap. Voilà. Hop, j'ai tout dit et je t'écoute et on t'écoute attentivement. Alors, la procrastination, la définition par exemple.
Ah oui, tout à fait. Alors d'abord, bonjour à tous. Merci de nous retrouver donc sur Fréquence Mistral. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Il y a déjà un mois qui s'est écoulé. Donc j'espère que le précédent challenge s'est plutôt bien passé pour vous, le fait de rester vous-même et de pouvoir vous affirmer en toute cause et dans toutes circonstances dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la procrastination. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, le mot barbare, puisque c'est un grand mot, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. On va commencer par le décortiquer. Si on parle d'un point de vue étymologique pour le mot, vous avez le terme « pro » en latin, qui signifie « en avant », et « crastinus », qui signifie « du lendemain ». Donc, c'est ni plus ni moins que la tendance à différer au lendemain, ou voire même au surlendemain, il y en a qui sont experts en la matière, qui signifie donc voilà de repousser des tâches qui sont plus ou moins concernées par la vie quotidienne. Ça peut être exclusif aussi au domaine professionnel, exclusif au domaine personnel. Bref, c'est un petit peu un... Il y a plein de sortes, il y a plein de variantes dans la procrastination. Alors justement, il existe deux types principaux. On va dire la procrastination dite occasionnelle, ponctuelle, dans le sens où on est presque tous concernés. C'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose de temps en temps et que du coup, on a tendance à le remettre au lendemain. Et puis, il y a la procrastination qui est beaucoup plus chronique et donc quelquefois même pathologique. Pathologique, on retrouve le terme pathos dedans avec la souffrance. Donc, ça veut dire que c'est une maladie dont on souffre et qui nous handicape vraiment dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment un gros fardeau. Et pour ce type de procrastination, on peut même être amené à consulter un psychiatre.
Ah oui, à ce point.
Oui, d'accord. Tout à fait. Donc c'est nous, dans cette chronique aujourd'hui, on va essentiellement parler du coup du premier type, puisque je ne me prétendrai pas psychiatre ou psychologue. Donc moi, je vais vous apporter quelques outils, quelques techniques, des méthodes, des astuces aussi qui sont dotées du développement personnel et du coaching pour réussir à lutter contre cette procrastination plus ponctuelle, plus occasionnelle, mais que vous pouvez retrouver dans votre vie de tous les jours. D'accord ? Alors justement, on va essayer de comprendre cette procrastination avant de pouvoir réussir à la dépasser. Encore faut-il pouvoir la cerner. Et justement, quelles sont les causes qui peuvent provoquer la procrastination? Je dirais beaucoup de distractions. Tout d'abord, la distraction avec le monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, la télévision, ce genre de choses, qui ont tendance à être des échappatoires pour justement, c'est pas grave, c'est plus intéressant de prendre du plaisir là maintenant tout de suite, donc du coup je remets à plus tard ma tâche qui est peut-être plus une corvée ou en tout cas une contrainte. Donc c'est vrai que ça pèse beaucoup. Ça peut être aussi pour certaines personnes l'aspirateur par exemple. Ça peut effectivement paraître un petit peu loufoque, on va dire, mais c'est vrai que voilà, c'est malgré tout un moyen pour échapper à quelque chose qu'on ne veut pas faire. En deuxième cause, on a aussi l'erreur de planification, dans le sens où on va souvent se dire « bah tiens, ce que j'ai à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Du coup, c'est pas grave si je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard. De toute façon, ça me prendra pas beaucoup de temps. » Et en fait, on pense qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps alors qu'elles peuvent nous accaparer un petit peu plus que prévu. Et du coup, on repousse et on ne se donne aucune date limite de réalisation. Et ça, par contre, c'est un gros point noir.
À côté de ça, il y a d'autres choses qui s'accumulent. Donc finalement,
oui,
on
tout
en
à
sort
fait.
Pas. C'est un
exactement.
Peu un cercle
vicieux. Exactement. Le serpent qui se mord la queue. Et donc du coup, on se retrouve avec toute une accumulation de choses qu'on pense qui ne prendront pas de temps. Mais finalement, les unes, plus les autres, et plus encore les unes, et plus encore les autres. Et bien forcément, on se retrouve avec un gros tas de choses à faire. En autre point, on va dire, de cause qui pourrait expliquer la procrastination, ça va être le fait que l'être humain est ainsi fait, il a besoin de prendre du plaisir immédiatement dans ce qu'il fait. S'il n'y voit pas d'intérêt, si du coup pour lui il n'y a qu'une corvée, qu'une contrainte, forcément il ne va pas vouloir s'y mettre tout de suite. Un exemple bateau, vous voulez être raisonnable et vous dire, bon, bientôt j'ai une soirée avec des amis qui sont un petit peu intello et j'aimerais bien réussir à caler que j'ai vu tel film qui est très préconisé c'est dans les soirées, on va dire, littéraires. Et donc, du coup, oui, il vaudrait mieux que je regarde ce film. Il est assez ennuyeux et du coup, je sais que je vais pas passer forcément une excellente soirée. J'ai déjà des préjugés. Ça m'énerve déjà d'avance. Donc, finalement, est-ce que je préférerais pas regarder une bonne vieille comédie qui est hilarante, que je peux pas forcément caler dans ce genre de, dans ce genre de dîner que je vais avoir prochainement, mais au moins, je passe du bon temps là, maintenant, tout de suite. Voilà.
Ou alors, faut changer d'amis.
Aussi, oui, tout à fait, on peut. On y reviendra certainement dans la prochaine chronique, justement. Mmh. Ça sera en parfaite harmonie avec la thématique que j'aborderai, justement, avec vous. Il y a une autre raison aussi, une autre cause qui peut expliquer la procrastination. C'est ce que l'on appelle la peur de l'échec. C'est-à-dire quand on manque de confiance en soi, eh bien, tout simplement, on va retarder l'échéance pour se mettre aux choses parce que de toute façon, on va pas y arriver. Alors, à quoi bon? Donc, du coup, je préfère retarder, remettre à plus tard les choses que je pourrais être à même de réaliser maintenant, mais si je les réalise maintenant, ça me rappelle l'idée que je vais devoir passer quelque chose que je n'ai pas envie de faire et que je risque de rater. Un exemple tout bête, celui de l'étudiant qui a des examens à passer en fin d'année, qui doit s'atteler à des révisions. Et donc du coup, il sait qu'il va devoir passer, mais finalement, il n'a aucune envie de passer ses examens parce que pour lui, il est trop nul, il ne va pas y arriver, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Du coup, il retarde les révisions, le moment de s'y mettre, jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'y mettre, mais du coup, dans la précipitation, sous forme de pression, où là, on a la notion de stress qui va rentrer en jeu. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il y a tout un aspect aussi du stress qui va porter préjudice au fait de se mettre aux révisions. Et puis, il se met dans les meilleures conditions pour rater ses examens. Effectivement, il aura raison à la sortie de l'ensemble de cette période-là en disant « Mais oui, tu vois, j'avais raison, j'y suis pas arrivée, je suis trop nulle. Donc à quoi bon ?» En autre cause, on peut parler des mauvaises excuses. Je pense que certaines personnes en ont pas mal, genre « je suis pas du matin ». Par exemple, ou ça peut être aussi de toute façon je vais pas y arriver, donc je vais pas m'y mettre. Voilà, ce sont ce qu'on peut appeler aussi en PNL des fausses croyances. On s'auto-persuade de certaines choses qui nous empêchent du coup de faire un effort et de s'y mettre. Donc finalement, pourquoi pas. Et en dernier point, je dirais l'attente du moment parfait. On est tous à la quête du « non mais il faut que je m'y mette, mais quand je m'y mets, il faut absolument que toutes les conditions soient bien réunies. Il faut que je sois dans un moment calme, que je sois pas dérangée, que j'ai la tête à ça, que j'ai suffisamment de forme, que ce soit un jour où il fait pas trop beau, mais pas trop mauvais non plus. Bref, c'est jamais parfait et il faut s'en rendre compte malgré tout. Il n'y a pas de perfection qui existe. La seule perfection, c'est votre volonté. »
Du coup, ce moment parfait n'arrive pas ?
Non, finalement, on se rend toujours compte quand on se dit dans notre vie quotidienne « Non, mais je ferai des enfants quand j'aurai une situation bien stable, où je serai bien posée avec un conjoint, avec une maison, avec un travail, avec une voiture, telle marque, avec ceci, avec cela. » Et puis finalement, on s'impose des conditions qui retardent l'échéance parce que bien souvent, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Hein. Finalement, on a toujours remarqué, soit à un moment donné, c'est la santé qui va pas, soit c'est la vie professionnelle qui va pas, soit c'est la vie personnelle, mais c'est rare qu'il y ait tout qui soit coordonné en même temps. Donc finalement, parce que finalement, on est tout le temps en quête d'évolution. Donc si on est en quête d'évolution, ça veut dire qu'on veut toujours chercher plus loin, ce qui est plutôt positif, puisque ça veut dire qu'on veut évoluer, on veut réussir encore mieux, on veut se satisfaire davantage. Mais la définition même du désir, c'est qu'il ne peut jamais être abouti puisqu'il évolue. Donc finalement, on est dans une attente de perfectionnisme qui ne sera jamais atteint.
Et en voyant tous ces volets là que tu as évoqués, on a tous finalement procrastiné à un moment donné.
Oui, tout à fait. Alors ça va être sur certains domaines, il y en a, ça va être vraiment spécifique à des sujets, à des thématiques bien particulières. D'autres, ça va être plus ou moins sur l'ensemble de la vie quotidienne qui peut le retrouver régulièrement. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit cyclique ou que ce soit vraiment quotidien, on se retrouve très souvent dans le « non, mais je le ferai plus tard ».
Pour ce qui est des causes, certains auditeurs, auditrices peuvent se reconnaître dans différents volets.
Tout à fait.
Que tu as évoqué.
Tout à fait. Mais après, c'est pas un mal. Hein. Je veux dire, l'être humain est vraiment fait aussi de la sorte. Si ça ne vous pose pas problème, ce n'est pas une nécessité de réagir dessus. Mais à partir du moment où ça vous handicape vraiment dans votre quotidien, où vous vous dévalorisez même, on va parler justement des conséquences de la procrastination, c'est vrai que là, il faut réagir. Si vous vous rendez compte que ça vous pose problème, c'est problématique, justement. Donc, justement, en termes de conséquences, on a tout d'abord la déception. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, oui, il y a des choses que je dois faire, et puis, je les fais pas. Et donc, je suis pas capable d'y arriver. Donc, finalement, je suis déçue. Voilà. Encore une fois, je suis passée à côté, je me suis donné la chance d'eux, puis je l'ai pas fait. Donc on est quand même assez déçu de soi-même, de pas réussir à s'en sortir. On a une grosse perte d'énergie aussi, qu'il faut prendre en considération. De l'énergie parce que tout ce que vous ne faites pas, vous le gardez en tête et vous le ruminez et vous l'entretenez. Et comme les choses, on l'a dit tout à l'heure, s'ajoutent les unes aux autres, eh bien forcément, on se retrouve avec une énorme quantité de pensées à entretenir, mais ça vous consomme de l'énergie qui vous empêche du coup de passer à l'acte, on est d'accord, puisque ça vous fatigue. Donc du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux où vous n'avez même plus l'énergie suffisante pour vous y mettre.
Donc là, ça rejoint le physique finalement.
Exactement.
On est dans un état d'épuisement.
Exactement, tout à fait. Et ce qui n'est pas du tout favorable pour réussir à s'y mettre par la suite, puisque je ne suis pas en état physiquement.
C'est à ce moment-là qu'il faut s'alerter, consulter ?
Oui, tout à fait. Quand du coup, vous vous rendez compte qu'il y a comme un épuisement où finalement vous avouez vaincu avant même d'effectuer la tâche, là, effectivement, il y a matière d'agir. Pas forcément avec le psychiatre ou le psychologue, d'abord avec des méthodes intermédiaires. Donc, ça peut être justement avec un coach. Je ne veux pas me faire de la publicité, mais voilà, effectivement, je sers aussi à ça. Après, il y a aussi d'autres techniques, hein, les fleurs de Bach. Il y a certaines fleurs de Bach qui peuvent être intéressantes à utiliser pour justement se redonner un élan. Ce qu'il faut voir, c'est plus on prend rapidement le problème à temps, et plus forcément vous arrivez à agir dessus. Par contre, plus ça fait longtemps que vous l'entretenez, plus c'est ancré et plus il faudra du temps pour s'en sortir.
Ok.
Et en dernière conséquence, je dirais aussi, du coup, qui rejoint tout à fait hein, cette notion de fatigue aussi physique et morale, eh bien c'est tout simplement que plus on retarde, moins on a envie de s'y mettre. Mmh. Tout simplement.
Tu évoquais les fleurs de Bach, c'est des fleurs magiques du coup.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des fleurs qui sont assez intéressantes à étudier. Quand on les connaît, vous pouvez trouver des renseignements sur Internet. Vous avez des conseillères spécialisées en fleurs de Bach. Moi-même, je les pratique aussi avec certains patients, clients, on va dire plutôt, parce que c'est pas vraiment de l'ordre du médical. Mais c'est vrai qu'on peut être amené à les utiliser dans le sens où en fait, ces fleurs, pour résumer, on va dire, donc c'est quelque chose déjà de tout à fait naturel puisqu'on extrait tout simplement l'essence de la fleur. Il n'y a rien de chimique à l'intérieur, on peut très bien le prendre même si on est déjà sous antibiotiques par exemple, ça ne pose aucun problème, c'est sur des courtes cures on va dire, et ça permet de traiter des états émotionnels. Ça a été découvert par le docteur Bach qui en fait a associé 38 fleurs, qui a réussi à trouver un lien entre 38 fleurs et les états émotionnels qu'on peut être amené à rencontrer dans sa vie. Donc ça peut passer de l'état de dépression à l'état de surinvestissement, ça peut être l'impatience, c'est vraiment sur plein de caractéristiques diverses qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, des états émotionnels qui sont poussés à l'excessif. C'est-à-dire qu'il va partir du principe, lui, que tout sentiment est à la base positif. La peur, c'est quelque chose de très positif. Si vous vous rendez compte que vous êtes suivi dans la rue, vous avez cette notion de peur qui vous pousse à prendre votre téléphone portable dans votre poche pour composer le numéro de la police. En même temps, vous sortez la bombe lacrymo, vous accélérez le pas pour réussir à partir. Donc c'est une peur qui vous donne cette poussée d'adrénaline qui vous aide à vous en sortir. Par contre, la peur des araignées, là ça va pas vous porter dans la vie de tous les jours. Et ça peut par contre vous handicaper selon où est-ce que vous vous trouvez, si vous êtes confronté à un logement où il y a souvent des araignées, par exemple parce que vous êtes en rez-de-jardin et que vous êtes dans un milieu où c'est propice aux araignées. Et là du coup c'est une peur qui est nocive. Donc le but des fleurs de Bach, c'est de réussir à rééquilibrer les émotions pour en tirer finalement exclusivement les vertus, calmer les effets excessifs en néfastes et réussir à rééquilibrer avec la notion positive, la vertu de la fleur qui vous permet de retrouver un équilibre. Et ça, c'est vrai que ça aide dans la notion aussi de procrastination quand on atteint des états émotionnels compliqués.
Très bien, très bien.
Alors, du coup, j'ai envie de dire, pour commencer à en terminer, ou en tout cas à mettre de côté la procrastination, parce que bien évidemment, il faut garder en tête que c'est pas quelque chose que vous éradiquez, c'est quelque chose qui pourra toujours se manifester à certains moments de votre vie, mais c'est à vous d'intervenir dessus. Donc, ce sont un petit peu des pistes qu'on va élaborer aujourd'hui pour voir comment on peut s'y prendre pour la retarder, pour la repousser, mais ce sont des choses à mettre régulièrement en pratique quand on voit qu'elle reprend le dessus. D'accord, parce que c'est un peu une notion de facilité aussi, la procrastination. Donc du coup, c'est sûr que l'être humain, par moment, il a besoin d'un petit peu plus de relâchement et c'est normal que ça revienne et que ça reprenne le dessus. Donc là, pour aujourd'hui, on va commencer avec l'idée de bien démarrer sa journée. Outre le fait d'écouter Fréquence Mistral, notamment les troisièmes jeudis du mois, avec cette chronique qui va vous aider et vous booster dans votre quotidien, ça va être de se poser trois questions essentielles. en fait, des questions qui vont, on va dire, préparer votre journée, parce que rien n'est ni plus ni moins que conditionnement, d'accord ? Quand vous passez une très mauvaise nuit, parce que vous avez cogité ou parce qu'il y a eu du bruit dans la rue, enfin bon, peu importe les raisons, hein, vous avez passé une mauvaise nuit, du coup en général, hein, il y a un effet de loi des séries qui s'enchaîne avec, du coup vous n'êtes pas très très de bonne humeur, vous avez tendance à renverser votre café ou votre jus d'orange, vous ne trouvez plus vos clés de voiture, vous êtes en retard pour aller au boulot, bref, vous êtes dans une accumulation qui est négative. À l'inverse, si vous vous y préparez plutôt bien que vous anticipez du coup votre journée positivement, eh bien vous serez plus à même de la vivre positivement et sereinement, même s'il y a des effets qui sont négatifs, hein, des imprévus qui peuvent se passer, un mauvais coup de fil, une mauvaise rencontre ou un retard qui n'a pas été anticipé. Eh bien, vous pouvez le vivre beaucoup mieux, puisque vous êtes parti sur des bonnes bases, d'accord ? Vous appréhendez bien votre journée. Donc pour ça, il y a trois questions essentielles à se poser. La première, ça va être finalement, qu'est-ce que j'aimerais retirer de ma journée ? Ce soir, quand je fais le point, j'aimerais ressentir quoi ? De la fierté, de la satisfaction, un sentiment d'avancement ? Est-ce que j'aimerais avoir quelque chose de concret, ou est-ce que c'est plus moi me sentir bien et d'avoir l'impression vraiment d'être à jour dans mes documents, dans ce que j'ai à entreprendre ? La deuxième question, ça va rejoindre cette idée de sentiment. Quel est l'objectif du coup que je me donne pour cette journée-là, en adéquation avec ce sentiment que je veux retirer ? Et pour terminer, la troisième question, ça va être comment est-ce que je peux y contribuer dès ces 5 prochaines minutes ?
D'accord. Donc ces trois questions, il faut les garder peut-être en formule écrite.
Exactement. Ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Vous gardez une sorte, vous consacrez un cahier ou une feuille ou un classeur qui peut être tout à fait adéquat à tout ce que vous allez entreprendre en termes de coaching et développement personnel. Et tous les matins, vous vous prenez au cours de votre petit déjeuner, qu'il soit complet ou juste un café ou un verre d'eau, vous vous prenez 3 minutes pour réfléchir, 1 minute à chaque question. Et puis, à vous les formuler par écrit, non pas avec une grande phrase, mais avec des points clés pour l'avoir après sous les yeux durant toute la journée en vous disant « Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je me suis fixé comme objectif. Eh bien, je vais tâcher d'y répondre. » Et pour ça, vous vous y replongez tout au long de la journée. Ça va vous restimuler.
Ok. Et on prend des fleurs de Bac parallèlement à ça aussi.
Tout à fait. Tout est complémentaire. Effectivement. Exactement. Ça vous donne un élan qui vous aide, justement. Ça vous accompagne. C'est le tout qui vous porte.
Et justement, on va méditer sur ça.
Avec plaisir.
On va se donner quelques minutes nous aussi avec une pause musicale. On se retrouvera tout de suite après pour la suite de la procrastination sur Fréquence Mistral.
Thank you.
C'était Lorena McKinnitt sur Fréquence Mistral, retour de l'instant bien-être, et nous évoquons aujourd'hui avec Claire Elisabeth la, aide-moi,
procrastination.
Voilà, donc phase 4, on en est là, établir un plan d'action. Alors, quel est-il ce plan ?
Du concret. Après avoir réussi à se poser les trois questions pour entamer sa journée, il y a 10 points clés à aborder pour réussir à lutter contre la procrastination. Ces 10 points clés, ça va être, pour commencer, de lister déjà tout ce que l'on doit faire, des choses qui sont très importantes, les lister par écrit, c'est super important parce que vous vous y confrontez, c'est concret. Et en plus de ça, du coup, vous êtes dans une démarche de « je le vois, c'est concret, il faut que je joue dessus ». Ça vous rappelle, d'accord ? Vous êtes obligé comme ça de discerner ce qui est important à faire, ce qui est urgent et ce qui est secondaire. Vous allez les lister par ordre de priorité en leur mettant une date d'échéance, en fait. On a tous besoin d'une date butoir, donc ça sera à classer de cette manière-là. Et tout ce que vous allez mettre par écrit, ben, vous vous en libérez l'esprit. La fameuse perte d'énergie qu'on a vue en conséquence de la procrastination n'a plus lieu d'être. Donc on va d'abord lister en fait ce que l'on souhaite réaliser et on va commencer en deuxième point par se débarrasser des tâches les plus dures. Pourquoi ? Parce que c'est souvent celles que l'on a tendance le plus à repousser, à retarder, et c'est celles qui vont par contre, en commençant à les initier, eh bien on va réussir à s'encourager et à se motiver en se disant « oui, j'ai réussi à m'atteler à une tâche qui est compliquée pour moi et pourtant j'y suis arrivée, donc je suis capable de le faire pour les autres ». C'est un effet psychologique, ni plus ni moins. En troisième phase, il va falloir, on peut dire, fuir les tâches de 2 minutes, mais dans le sens où on va les fuir, on va les réaliser. On va arrêter de dire « bon, bah vu que ça ne me prend pas beaucoup de temps, je vais les faire plus tard ». Non. Est-ce que ce que vous souhaitez faire va vous durer plus de 10 minutes ? Si oui, eh bien pourquoi je pourrais pas me montrer plus productive au cours de ces 120 prochaines secondes ? C'est vraiment dans cette optique-là. En quatrième point, ça rejoint le cinquième point, chronométrer son travail et prévoir des temps de pause. Là, on rejoint une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui a été inventée par monsieur Cirillo dans les années 80, qui est un monsieur italien, Pomodoro qui veut dire tomate. Et en fait, Pomodoro, c'est parce que il a utilisé un minuteur en forme de tomate pour expérimenter sa première utilisation pour cette méthode. Cette méthode revient en fait à se programmer des plages de travail de 25 minutes top chrono pour réussir à réaliser une tâche, ou en tout cas à l'initier, le but n'étant pas forcément de la terminer. Parce que quelquefois ça nécessite qu'elles soient fractionnées, ces tâches. Et donc du coup, 25 minutes chronométrées de travail, 5 minutes chronométrées de pause, où là vous allez faire tout ce qu'il faut. Par exemple, si vous aimez aller surfer sur le net, vous allez surfer sur le net, écouter de la musique, lire un petit chapitre d'un livre, téléphoner à un ami, prendre un café, fumer peut-être votre cigarette sur la terrasse. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu ce que vous considérez comme une notion de plaisir. Mais voilà, c'est important de se prévoir des plages de travail et des temps de pause. Donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et toutes les 4 sessions, donc c'est-à-dire toutes les 2 heures, se prévoir une bonne demi-heure de pause.
Donc vous l'aurez compris, il faut investir dans un chronomètre en forme de tomate.
Exactement. Bon alors, la forme de tomate, ça sera pas une obligation, je vais vous épargner ça. Vous avez les petits poussins qui sont tout aussi sympas. Mais oui. Voilà, c'est la méthode Pomodoro parce que lui, le premier minuteur qu'il a utilisé était en forme de tomate. Donc c'est vrai que pour la petite anecdote, c'est plutôt rigolo d'avoir intitulé sa méthode ainsi. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. C'est l'idée, ce n'est pas d'avoir du résultat, c'est surtout cette notion de jeu, parce que on a vu que du coup le procrastinateur a besoin de prendre du plaisir dans ce qu'il fait, et la notion de se dire allez je me mets au défi, hop, je tâche de tenir mon chrono, si j'y arrive c'est bon. Donc c'est ça qui est le plus important pour lui et c'est ça qui l'aide. En sixième point, ça va être éloigner toute forme de distraction. Donc ça va être tout ce qui est téléphone, ordinateur, si ça va être la guitare, ça va être l'aspirateur, ça va être tout ça, les livres que vous voyez traîner, ça va être de vous mettre en condition. Un casque peut-être insonorisé sur les oreilles si vous pouvez pas être en solo dans un bureau. Ou si vous travaillez sur ordinateur, il y a une très bonne application qui existe, qui s'appelle Rescue Time, et qui du coup vous allez le configurer vous-même, c'est gratuit sur internet, vous le configurez et ça vous donne l'opportunité de contrôler, de vous empêcher d'accéder à certains sites sur certaines plages horaires. Et du coup, ça vous limite dans le temps sur l'utilisation de Facebook, notamment quand on travaille. En septième point, ça va être de ne pas se montrer perfectionniste, de préférer la quantité à la qualité, dans le sens où vous pouvez fractionner votre tâche, si vous en avez une grosse à effectuer, vous la fractionnez en plusieurs fois. Vaut mieux faire plusieurs fois et la peaufiner au fur et à mesure plutôt que la faire en une seule fois. Essayez de la rendre parfaite, mais ne pas y arriver parce que vous ne serez plus concentré. D'où les fameuses pauses et les plages horaires de 25 minutes. Se motiver aussi, ça va être se trouver une carotte, se récompenser. L'idée de se donner une récompense à la suite de quelque chose que vous avez réussi à réaliser, c'est important. Ça va être une sortie avec des amis, un café, ça va être un cinéma. Se trouver un complice aussi, ça peut être intéressant. L'idée d'avoir quelqu'un à qui donner ses impératifs, son projet, pour lui expliquer, voilà, moi, il faut que telle date, ça soit terminé, à telle heure, ça soit terminé. Et lui, il va se permettre, eh ben, de contrôler votre avancement. Et puis pour certaines personnes, il y a besoin d'un petit excès, c'est-à-dire de confier une certaine somme d'argent, 50 euros par exemple, à la personne de confiance et lui dire « Bon, si j'ai fini dans les temps, tu me rends les 50 euros. Par contre, si j'ai pas fini, tu les gardes et puis ben, t'en fais ce que tu veux. » Et des fois, cette notion donne suffisamment de pression. Et en dernier point, je dirais se concentrer sur la ligne d'arrivée, voir pourquoi vous l'exercez, cette tâche, pourquoi vous la réalisez. Finalement, le gain de temps par la suite, peut-être le gain d'argent si c'est un projet professionnel. Ça va peut-être être également... le repos, ça va être la satisfaction, le sentiment de liberté, de sérénité parce que quelque chose aura été fait et du coup vous n'y pensez plus. C'est sur tout ça qu'il faut se concentrer pour réussir à se motiver et à se donner l'impulsion nécessaire. Donc voilà pour les grands points clés au niveau de la procrastination pour lutter contre elle.
Très bien, on passe à l'astuce coaching.
Exactement, il y a plusieurs petites astuces que vous pourriez utiliser. Par exemple, un planificateur de semaine, où vous voyez tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, c'est important d'avoir la visu sur la semaine. Comme ça, vous dispatchez vos tâches au fur et à mesure sur la semaine. Vous ne condensez surtout pas tout le même jour. Ça vous permet d'être allégé d'une journée à l'autre. Ça va être de ne pas sous-estimer non plus le temps de travail que va vous prendre une tâche. Vaut mieux surestimer. Vous pensez qu'il vous faut une heure et demie. Bon, on va prendre plutôt 2 heures. Et comme ça, si vous finissez plus tôt, vous êtes content. Ça va être également de ne pas s'autoriser plus d'un seul report par objectif. Vous vous en autorisez un, vous avez le droit d'avoir un petit coup de mou, mais évitez quand même de le reporter plus d'une fois. Et puis aussi de cesser de dire oui à tout. Si vous vous sentez pas en forme, si vous êtes fatigué, si vous ne voyez pas, si vous voyez qu'on vous demande quelque chose qui a tendance à plus vous écraser, à vous incomber davantage avec toute la masse de travail que vous avez déjà à faire, vous pouvez aussi dire non en proposant peut-être une solution alternative, une autre personne de confiance que vous connaissez, ou ça va être de retarder le projet qui est évoqué pour justement terminer ceux qui sont commencés et vous consacrer pleinement aux autres.
Ok. Cesser de dire oui, donc on dit non.
Exactement, tout à fait. Ça revient ça rejoint vraiment le précédent.
Mais c'est vrai qu'on est parfois un peu gêné de le dire et finalement il faut prendre sur soi et le dire.
Tout à fait. En expliquant justement, oui, mais si je peux le faire, mais si je le fais, ça sera pas de bonne qualité. Moi, je préfère faire quelque chose de qualité. La personne l'entendra aussi.
Très bien.
Donc finalement le challenge qu'on va dire pour ce mois-ci, moi je vous engage à ce que vous réussissiez à cesser de repousser sans cesse au lendemain ce que vous devez réaliser et de réussir à le faire à partir d'aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui, top chrono et justement top chrono pour le journal régional que vous retrouvez tout de suite. On se retrouve bientôt.
À très bientôt.
Le mois prochain.
Exactement.
Allez, merci et vous retrouverez bien sûr cette émission en podcast dans la journée. Merci Claire-Elisabeth.
Merci à vous.
Ciao, ciao.
Ciao.